Radio Vatican, France et Afrique.
Merci de votre fidélité à l'écoute de Radio Vatican et bienvenue à cette nouvelle édition. Dignitas Infinita, c'est le titre d'un document rendu public ce lundi lors d'une conférence de presse par le dicaster pour la doctrine de la foi. Ce document traite des questions en lien avec des abus et des violations des droits humains et interpelle sur l'urgence de préserver la dignité des personnes. Vous suivrez les détails dans les nouvelles de l'Église qui concernent également le retour sur la Divine Miséricorde célébré dimanche 7 avril. 30 ans après le génocide au Rwanda, les commémorations se poursuivent. Nous recevrons le cardinal Antoine Kambanda, archevêque de Kigali, dans notre rubrique Invité du jour qui nous parlera de l'effort de l'Église sur le chemin de la réconciliation. L'actualité sociopolitique africaine nous conduira au Mozambique où au moins 96 personnes sont mortes dans un naufrage. Dans la nuit du 2 au 3 avril, une bande de personnes non identifiées a attaqué le sanctuaire Marie-Reine de la paix de Nsimalen à Yaoundé au Cameroun. Nous y reviendrons avec le recteur de ce sanctuaire dans la deuxième partie de cette édition. Voilà pour les titres.
Radio Vatican, France et Afrique, Jacques Ngol.
À l'occasion des 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le dicaster pour la doctrine de la foi a publié ce lundi Dignitas Infinita, fruit de 5 ans de travail, ce document qui comprend le magistère papal de la dernière décennie. Il réaffirme le caractère incontournable du concept de dignité de la personne humaine au sein de l'anthropologie chrétienne. Compte rendu de Xavier Sartre.
La défense de la vie des personnes, de leur conception à leur mort naturelle, la défense des pauvres et des migrants, partant de la dignité inaliénable de toute personne créée à l'image de Dieu, Dignitas Infinita fait la liste des graves violations de cette dignité, de toute espèce d'homicide au génocide en passant par l'avortement, l'euthanasie et le suicide délibéré, sans oublier les mutilations, la torture physique ou morale. Il y a aussi tout ce qui est offense à la dignité humaine comme les conditions de vie inhumaines, les emprisonnements arbitraires, les déportations, l'esclavage, la prostitution, les conditions de travail dégradantes, sans oublier bien sûr la peine de mort. Thème d'actualité, cher à François, le travail des migrants, la traite humaine, le commerce des organes, le trafic de drogue et d'armes, mais aussi le terrorisme et le crime international organisé. Dignitas Infinita parle aussi des abus sexuels, de la discrimination envers les femmes et des violences qu'elles subissent. Le texte condamne aussi la GPA qui transforme l'enfant en simple objet, qui lèse gravement la dignité de la femme et de l'enfant et qui est fondée sur l'exploitation d'une situation de nécessité matérielle de la mère. Un enfant est toujours un cadeau et jamais l'objet d'un contrat, rappelle Dignitas Infinita. Autre thème, là encore d'actualité, la théorie du genre, qualifiée de très dangereuse parce qu'elle efface les différences dans la prétention de rendre tout le monde égaux. Vouloir disposer de soi, comme le prescrit la théorie du genre, ne signifie rien d'autre que céder à la tentation séculaire de l'être humain, se faisant Dieu, écrit le document.
Célébrer la divine miséricorde, c'est se rappeler que Dieu est miséricordieux, il est amour. C'est ce qu'a affirmé sœur Marceline Ebia, religieuse ivoirienne de la communauté catholique, mère du divin amour en Côte d'Ivoire, qui nous explique l'importance de faire recours à la miséricorde dans le contexte des conflits et des guerres. On l'écoute.
On n'est plus à l'ère de œil pour œil, dent pour dent. Si nous voulons rendre aux autres le mal qu'ils nous font, mais on ne s'en sortira jamais. Alors que, en faisant l'expérience de la prière de la miséricorde divine, petit à petit, nous-mêmes, nous recevons de l'amour de Dieu, nous recevons du pardon de Dieu. Et comme Dieu nous pardonne, comme Dieu nous fait miséricorde, nous aussi, à notre tour, nous faisons miséricorde aux autres. Moi, je crois sincèrement, et à partir de mon expérience, que la prière de la miséricorde nous ouvre à l'amour des autres, nous initie même à avoir un cœur aussi miséricordieux. Puisque il est dit dans les évangiles, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Donc, plus on fait l'expérience de la miséricorde de Dieu, plus nous aussi, nous devenons de plus en plus miséricordieux vis-à-vis de nos frères et sœurs. Donc, c'est une vraie source de guérison intérieure, des blessures intérieures. Merci à Dieu pour cette dévotion qu'il a dévoilée à sœur Faustine et que l'Église a pris à cœur. Parce que c'est une prière, en tout cas pour nous qui sommes vulnérables, pour nous qui avons la conscience de nos péchés, de nos fautes, quand on sait que Dieu est miséricordieux, quand on sait que Dieu pardonne, cela nous encourage beaucoup. Ce n'est pas que ça nous encourage à pécher, mais on sait qu'au moins, comme nous sommes faibles, si on pêche, Dieu nous pardonnera. Et ça, c'est une source de joie.
Plusieurs pèlerins se sont rendus au sanctuaire Notre-Dame de la Divine Miséricorde de Ravia dans le diocèse de Yamoussoukro dans le cadre d'un pèlerinage marquant la célébration du dimanche de la Divine Miséricorde. Ce pèlerinage a été marqué par une messe présidée par Mgr Joseph Aka Kakou, ordinaire du lieu qui, dans son homélie, a fait savoir aux fidèles que ce dimanche de la Miséricorde est là pour nous guérir comme Jésus guérit Thomas. Correspondance de Marcel Ariston-Blé.
La miséricorde de Dieu est dynamisée par la foi et la foi à son tour est dynamisée par la communion fraternelle. C'est pourquoi l'Église est fondée sur la théologie de la miséricorde divine, a expliqué dimanche 7 avril 2024 Mgr Joseph Aka Kakou, évêque de Yamoussoukro, aux pèlerins venus en grand nombre prendre part au pèlerinage dédié à cette fête au sanctuaire marial Notre-Dame de la Divine Miséricorde de Ravia dans le dit diocèse. Poursuivant son homélie, l'évêque leur a fait savoir qu'une confession religieuse comme la nôtre est une assemblée de croyants, une assemblée selon lui qui a juré de vivre et de mourir ensemble au sein du patrimoine commun qu'est la foi.
Alors, ce dimanche de miséricorde est là pour nous guérir, comme Jésus guérit Thomas.
Mgr Aka leur a par la suite partagé trois leçons. La première,
c'est qu'il n'est pas bon de juger quelqu'un pour une offense que Dieu lui a déjà pardonnée.
Deuxième leçon, il n'est pas bon de perdre espoir en la miséricorde de Dieu, quelle que soit l'ampleur de notre faute. Autrement, ça devient de l'orgueil. Douter de la miséricorde de Dieu est la véritable défaite. Troisième leçon, c'est que au royaume de la miséricorde, la justice est suspendue. Cependant, la justice et la miséricorde restent des outils essentiels que Dieu utilise pour administrer l'univers.
Marcel Ariston-Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Ouvrons la page de l'actualité sociopolitique sur le continent africain. Les recherches se poursuivent lundi au large du Mozambique pour retrouver des passagers après la mort d'au moins 96 personnes dans le naufrage d'un bateau de pêche surchargé sur lequel de nombreuses familles paniquées s'étaient précipitées après des rumeurs sur une épidémie de choléra. L'embarcation qui transportait quelques 130 personnes dont de nombreux enfants s'est trouvée en difficulté dimanche en début de soirée alors qu'elle se dirigeait vers une petite île située au large de la province septentrionale de Nampula. Le Rwanda commémore les 30 ans du génocide. Dimanche, près de 5000 personnes se sont rassemblées dans un stade de Kigali pour l'une des nombreuses cérémonies du souvenir. Les hommages aux victimes dureront toute la semaine. Mais pour les jeunes Rwandais, le devoir de mémoire doit s'effectuer toute l'année. Dans les universités, des familles d'étudiants se réunissent chaque semaine pour se souvenir, mais aussi pour pardonner et s'assurer un meilleur avenir. Suivez le reportage de notre correspondante à Kigali, Enola Richette.
Ils sont une quinzaine de jeunes réunis autour d'une table de pique-nique dans le parc de l'université adventiste de Kigali. Ensemble, ils forment l'une des 1500 familles de l'association des étudiants rescapés du génocide, créée après 1994 pour les jeunes ayant perdu leurs parents. 30 ans après, ces familles sont surtout pour la nouvelle génération, un lieu de transmission de l'histoire du Rwanda. Un rappel loin d'être ennuyeux pour Emma Blenchouti, étudiant en information et technologie, pour qui cet héritage doit justement être conservé à tout prix.
D'une certaine manière, des conséquences du génocide nous atteignent à travers nos parents, nos grands-parents, nos oncles. En tant que descendants, on doit préserver leur histoire et leur héritage.
Si le souvenir est si important pour ces jeunes, c'est parce qu'il constitue l'unique chance de pardonner les génocidaires et d'assurer l'unité du peuple rwandais, explique Nemani Shimwe, étudiante en commerce.
C'est essentiel pour nous de pardonner parce que si nos parents n'avaient pas pris la décision de pardonner et avaient cherché à se venger, il n'y aurait jamais eu de paix dans notre pays. Savoir que la famille d'un camarade a participé au génocide, c'est dur évidemment, mais nous devons être courageux pour éviter que le génocide ne se reproduise.
Au Rwanda, la division en ethnie est désormais bannie. Objectif, ne faire qu'un peuple pour avancer ensemble vers le développement du pays.
La communauté de développement d'Afrique australe a annoncé lundi la mort de 4 de ses soldats déployés dans l'est de la République démocratique du Congo, dont 3 Tanzaniens tués par un tir de mortier. Le 4e de nationalité sud-africaine est mort à l'hôpital des suites de problèmes de santé, a précisé la SADC dans un communiqué ajoutant que 3 autres soldats tanzaniens avaient été blessés. Au moins 28 personnes ont été tuées au Soudan lors d'une attaque des forces paramilitaires contre un village au sud de la capitale Khartoum, ont rapporté dimanche deux organisations soudanaises pro-démocratie. Les forces de soutien rapide FSR en guerre avec l'armée régulière depuis un an ont attaqué le village d'Oum Adam à 150 km au nord de Khartoum, a indiqué tôt dimanche le comité de résistance locale, une organisation qui gère l'entraide entre habitants. La Côte d'Ivoire a bien avancé dans la lutte contre la déforestation, a estimé dimanche le commissaire de l'Union européenne à l'environnement lors d'une visite de plantation de cacao dans ce pays, au moment où Bruxelles veut interdire l'importation de produits issus de zones déboisées. Au Cameroun, purification du sanctuaire marial de Tsimalène après sa profanation. Dans la nuit du 2 au 3 avril dernier, un groupe d'assaillants a profané le sanctuaire Marie-Reine de la paix de Tsimalène en détruisant les icônes, en coupant les cous et les bras de croix. Dimanche, l'archevêque de Yaoundé, Mgr Jean Barga, a célébré la messe de purification et les morceaux brisés comme les reliques ont été plantés comme une semence pour implorer davantage la paix au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Retour sur ces événements avec le recteur du sanctuaire, l'abbé Antoine Roger Evouna.
Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, donc 2 ou 3, un groupe de personnes, ils étaient près de 10, ils se sont introduits au sanctuaire, éclairés. La première chose, c'était couper les fils de courant pour qu'on ne puisse pas avoir d'images, même de caméras et autres. Et ils ont ciblé quelques icônes qui sont les plus visitées ici, notamment la grande croix dans la cour. Ils sont allés vers le calvaire, ils ont brisé les bras. Donc à chaque endroit sacré, ils sont arrivés, ils brisaient les bras, ils coupaient le cou. Et même pour la Vierge Marie, ils sont un peu comme éventrés. Donc, ils ont percé le ventre. Et à côté, la croix lumineuse, donc elle est juste à côté du calvaire. Donc, elle supplombe l'endroit où que vous veniez. Ils ont donc tiré les fils de courant, coupé, autres. Ils sont allés à l'endroit le plus élevé, qui est vraiment l'endroit où il y a la miséricorde divine, dont ce petit sentier, où nous avons célébré pour la première fois le 1er janvier. Et ils ont aussi coupé les bras de la miséricorde divine et coupé les rainures de lumière.
Donc, on peut comprendre qu'ils ont détruit les icônes, les statues et beaucoup de biens du sanctuaire.
Oui, même le calvaire.
Et est-ce qu'ils ont emporté aussi certains biens?
En ma connaissance, pas du tout. Quoique c'était vraiment si venu nuit, cassé, c'est ritualisé. C'est un peu satanique, quoi. Parce que vous voyez, quand on coupe le cou et qu'on brise les bras, le cou, ça représente la communication, la transmission. Qui dit transmission d'évangélisation, Dieu, les bras symbolisent l'autorité, le pouvoir, la puissance. Ça veut dire votre autorité, l'Église, nous énerve. Votre transmission, l'évangélisation, nous n'en voulons pas.
Donc, on peut dire que c'est à cause de la haine envers la foi. Et ce dimanche, a eu lieu la purification donc du sanctuaire par l'archevêque de Yaoundé. Pouvez-vous nous en parler?
Oui, donc la messe a commencé à 11h. Donc, toutes les forces vives sont arrivées. Et dans l'homélie a été très bref. L'archevêque a dit, lutter contre un saint, c'est lutter contre Dieu. Lutter contre la Vierge Marie, c'est lutter contre Dieu. Et donc, lutter contre Dieu, c'est du satanisme. C'était ça le résumé de son homélie. Et après, l'esprit lui a inspiré autre chose, c'est-à-dire on s'est levé pour prier, faire des types de litanies, dont des litanies d'intercession pour la protection des lieux saints ici, pour la protection des icônes, pour la protection des pèlerins. Et à la fin, on a creusé une tombe. Et tout ce qu'on appelle les reliques là, on les a mis dans une étoffe blanche. On les a plantées parce que c'est la semence qui va grandir ici. On parle de Marie, reine de la paix, mais aussi Marie, reine du pilier de la paix. Et je crois que pour la première fois, le pilier de la paix a été planté pour que la paix règne davantage au Cameroun, en Afrique et dans le monde.
L'abbé Antoine Roger Evouna, prêtre de l'archidiocèse de Yaoundé, recteur du sanctuaire Marie-Reine de la paix de Tsimalène au Cameroun. Des propos recueillis par Stanislas Kambashi. Dans le contexte de la commémoration des 30 ans du génocide au Rwanda, nous donnons de nouveau la parole au cardinal Antoine Kambanda, l'archevêque de Kigali, qui nous parle de la pastorale de réconciliation mise en place par l'Église du Rwanda au lendemain de cette tragédie, ainsi que des défis rencontrés.
L'Église Rwanda, depuis maintenant 30 ans, depuis le génocide, l'orientation de la pastorale était une pastorale de réconciliation. D'abord, tout de suite après le génocide, l'Église au Rwanda s'est mise à l'enterrement digne des victimes et le deuil pour eux, et une tentative aussi de réconciliation avec nos morts, et en invoquant la miséricorde de Dieu sur ce qui se passait. Puis la réconciliation ici, en fait, il y a réconciliation à trois niveaux. Il y a la réconciliation avec Dieu, parce que tout le mal que l'homme fait à l'autre, c'était mal, un péché qui crie à Dieu. Donc, réconciliation avec Dieu et réconciliation avec soi-même. Et il y a des conflits intérieurs, des trahisons qui ont eu lieu, la culpabilité de ne pas pouvoir sauver, surtout pour ceux qui sont vivants, s'il y avait moyen, etc. Et puis, réconciliation avec les autres. Et puis, la réconciliation pratique, le secours des survivants par la Caritas, la reconstruction des maisons qu'on construisait ensemble. Donc, les victimes et les familles de ceux qui sont donc accusés de génocide. Donc, se mettre à construire des maisons ensemble pour les victimes, pour les plus vulnérables, ça aussi, c'est une réconciliation pratique, surtout quand il s'agit de se mettre ensemble pour développer. Mais il y a une méthodologie qu'on a développée au sein de l'Église, mais aussi qui a des ressemblances avec les autres, de s'asseoir dans des petits groupes, dans les communautés ecclésiales de base. Chacun raconte son histoire de souffrance et les autres l'écoutent sans jugement. Et quand on comprend la souffrance de l'autre, cette souffrance de l'autre nous fait tous souffrir, c'est-à-dire ça nous porte à la compassion. La compassion, ça veut dire souffrir à cause de l'autre. Et ça, c'est la porte au pardon et réconciliation.
Pastorale de la réconciliation, est-ce que vous avez rencontré quelques défis dans cette pastorale?
Oui, oui, nous avons, vous comprenez, le génocide était fruit d'une longue histoire d'idéologie divisionniste qui divisait le peuple, cartes d'identité qui montraient les ethnies, et puis une division qui va aussi même dans la famille, parce que s'il y a des familles mixtes, et l'identité de l'enfant, c'est l'ethnie du père, ce qui a amené à des drames incroyable où une maman pourrait dénoncer ses enfants, où les oncles pourraient tuer même les nièces et les neveux parce qu'ils n'appartiennent pas, donc suivant la politique, ils n'appartiennent pas aux mêmes ethnies. Donc, c'est le génocide a frappé les relations les plus intimes, les relations humaines les plus intimes, même au sein de famille. Alors c'était très difficile. Donc, et puis le négationnisme, c'est la guerre. Ce n'a pas été le génocide systématique d'exterminer une population. C'était la guerre ou l'idéologie, aussi bien à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et puis la collaboration pour la justice. La justice a été très difficile à réaliser. La justice classique ne pouvait pas fonctionner. On comptait que ça allait prendre plus de 100 ans pour avoir justice. Et beaucoup ne pouvaient pas vivre pour avoir la justice. C'est les juridictions cachacha, selon la justice traditionnelle, qui a pu résoudre le problème d'avoir la justice.
Le cardinal Antoine Kambanda, archevêque de Kigali au Rwanda, interrogé par Stanislas Kambashi.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mesdames et messieurs fidèles auditeurs, c'est ici que prend fin cette édition de notre programme présenté par Jacques Ngol. Merci de l'avoir suivi avec attention. Restez toujours connectés à nos programmes. Prochain rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Au revoir.